Sénèque, Lettre à Lucilius, Livre 9, Lettre 75, Écrire simplement et comme on pense. Affections et maladies de l'âme, trois classes d'aspirants à la sagesse. Tu te plains du style trop peu apprêté de mes lettres, mais qui donc parle avec apprêt s'il ne veut être un insipide parleur? Comme dans ma conversation avec toi, soit assis, soit en promenade, il n'y aurait ni travail ni gêne. Ainsi, je veux que soient mes lettres, qu'elles n'aient rien de recherché, de factice. S'il était possible, je voudrais te montrer à nu ce que j'ai dans l'âme plutôt que te le dire. La discussion la plus vive ne me ferait ni frapper du pied, ni agiter les bras, ni renforcer ma voix. Je laisserai cela aux orateurs et me contenterai de te transmettre mes pensées sans vain ornement comme sans platitude. Il n'est qu'un point dont je sois jaloux de te convaincre. C'est que je pense toutes les choses que je dis et que non seulement je les pense, mais que je suis passionné pour elles. Autre est le baiser qu'on donne à une maîtresse, autre celui qu'on donne à un fils. Et toutefois, ce baiser, si chaste et si pur, manifeste assez la tendresse d'un père. Ô Dieu ne plaise que je condamne à la sécheresse et à la maigreur nos entretiens sur ces grands sujets. La philosophie ne divorce point avec l'imagination, mais il ne faut pas dépenser trop de travail en paroles. Il faut avoir pour but essentiel de parler comme on sent, de sentir comme on parle, de faire concorder son langage avec sa conduite. Il a rempli ses engagements, celui qui, à le voir et à l'entendre, est toujours le même. Avant de juger quel il est, ce qu'il vaut, voyons s'il est un. Nos discours doivent tendre non à plaire, mais à être utiles. Si pourtant l'éloquence nous vient sans qu'on la cherche trop, si elle s'offre d'elle-même ou coûte peu, qu'on l'admette et qu'elle serve d'accompagnement à nos belles doctrines, de telle sorte qu'elle fasse ressortir les choses plutôt qu'elles-mêmes. Il est des arts qui parlent exclusivement à l'esprit. Celui-ci est l'affaire de l'âme. Le malade ne cherche pas un médecin qui parle bien, mais qui guérissent. Si le hasard veut néanmoins que ce même homme qui sait guérir discours avec grâce sur le traitement à suivre, le malade en sera bien aise, mais ne s'estimera pas plus heureux pour lui avoir trouvé ce second talent, aussi peu nécessaire à un médecin qu'une belle figure à un pilote. Pourquoi me vouloir chatouiller et charmer l'oreille? Il s'agit d'autre chose. C'est le fer, c'est le feu, c'est la diète qu'il me faut. Voilà pourquoi tu es mandé. Tu as à soigner un mal invétéré, grave, épidémique. Tu n'as pas moins à faire qu'un Hippocrate en temps de peste, et c'est à peser des mots que tu t'amuses. Trop heureux si tu pouvais suffire aux choses. Quand amasseras-tu les trésors de la science? Quand te l'appliqueras-tu assez intimement pour qu'elle ne puisse t'échapper? Quand la mettras-tu à l'épreuve? Il n'en est pas de celle-ci comme des autres qu'il suffit de confier à sa mémoire. C'est à l'œuvre qu'il faut l'essayer. Ici, l'homme heureux n'est pas l'homme qui sait, mais qui pratique. Mais quoi? N'y a-t-il pas des degrés intermédiaires? Hors de la sagesse, n'y a-t-il plus que des précipices? Non, pas à mon avis. Les hommes qui sont en progrès sont encore au nombre des insensés, mais séparés d'eux par un vaste intervalle. Et parmi ces premiers même, on trouve de grandes différences. Ils se divisent, selon quelques-uns, en trois classes. La première comprend ceux qui n'ont pas encore la sagesse mais qui déjà ont pris pied dans son voisinage. Toutefois, si près qu'on soit du but, on est en deçà. « Quels sont ces hommes ? » demandes-tu. « Ceux qui ont déjà dépouillé, et passions, et vices, qui ont appris à quoi ils doivent s'attacher, mais dont la confiance n'est pas allée jusqu'à l'épreuve, et qui n'ont point usé de leur trésor. Néanmoins, la situation qu'ils ont fui, ils n'y peuvent plus retomber. Ils en sont à ce point où l'on ne glisse plus en arrière, mais ce n'est pas encore à leurs yeux chose bien claire. Et, comme je me rappelle l'avoir écrit dans une de mes lettres, ils ne savent pas qu'ils savent. Ils jouissent déjà d'un état meilleur. Ils n'y ont pas foi encore. Ces hommes en progrès sont désignés par quelques-uns comme ayant échappé aux maladies de l'âme, mais non tout à fait à ses affections, et comme foulant encore une pente glissante, vu que personne n'est en dehors des tentations de la méchanceté s'il ne s'est entièrement débarrassé d'elle, et que nul ne s'en est débarrassé s'il ne s'est, au lieu d'elle, revêtu de la sagesse. Quelle différence y a-t-il entre les maladies de l'âme et ses affections? Je l'ai souvent énoncé. Je veux te le rappeler encore. Ces maladies sont les vices invétérés, endurcis, comme la cupidité, l'ambition excessive. Une fois maîtres de l'âme, ils la tiennent enserrée et deviennent ses éternels vautours. Pour les définir brièvement, ces maladies sont les faux préjugés où l'on s'obstine, comme de croire vivement désirable ce qui ne l'est que faiblement. Ou, si tu l'aimes mieux, c'est convoiter trop fort des choses faiblement désirables ou qui ne le sont pas du tout. Ou, c'est priser trop haut ce qui a peu ou point de prix. Les affections sont des mouvements de l'âme répréhensibles, soudains et impétueux, qui, répétés et négligés, font les maladies. De même qu'un catarrhe simple qui n'a point passé à l'état chronique produit la toux, et la toux continue et invétérée la phtisie. Ainsi, les âmes qui ont fait le plus de progrès sont hors des maladies, mais ressentent encore des affections, si près qu'elles soient d'être parfaites. À la deuxième classe, appartiennent ceux qui se sont délivrés et des plus dangereuses maladies et même des affections, mais qui, à cet égard, ne possèdent point la pleine sécurité. Ils peuvent éprouver des rechutes. La troisième classe a laissé derrière elle des vices graves et nombreux, mais non pas tous les vices. Libre de l'avarice, elle reste sujette à la colère. L'aiguillon de la chair ne la tourmente plus, mais l'ambition ne l'a pas quittée. Elle ne convoite plus, mais elle craint encore. Ses craintes même lui laissent assez de fermeté pour certaines choses, bien qu'elles faiblissent pour d'autres. Elle méprise la mort et la douleur l'épouvante. Une réflexion sur cette dernière classe. Estimons-nous bien partagés si nous y sommes admis. Il faut une riche et heureuse nature, un grand et assidu dévouement à l'étude pour occuper le second rang. Mais la troisième nuance n'est pas non plus à dédaigner. Songe et regarde combien d'iniquités t'environnent. Vois s'il est un seul attentat sans exemple. Quel progrès fait chaque jour le génie du mal? Que de méfaits politiques et privés? Tu sentiras que pour nous, c'est assez faire que de ne pas être parmi les plus corrompus. Mais j'espère, moi, pouvoir aussi m'élever plus haut. Je le souhaiterais pour nous plutôt que je ne le promettrais. Le mal en nous a pris l'avance. Nous marchons à la vertu, empêtrés de mille vices. J'ai honte de le dire. Nous cultivons l'honnête à nos moments perdus. Mais quel magnifique salaire nous est réservé si nous rompons nos empêchements, nos mauvaises tendances si tenaces. Ni cupidité, ni crainte ne nous feront plus reculer. Inébranlables à toutes les alarmes, incorruptibles aux voluptés. Nous n'aurons point horreur de la mort, non plus que des dieux. Nous saurons que ni la mort n'est un mal, ni les dieux ne sont méchants. Il y a autant de faiblesse dans l'être qui fait souffrir que dans celui qui souffre. Aux êtres bons par excellence, le pouvoir de nuire manque. Quel trésor nous attend si, quelque jour, de cette fange nous nous élevons à la hauteur sublime du sage, à cette tranquillité d'âme, et, toute erreur bannie, à l'absolue indépendance. Cette indépendance, quelle est-elle? Ne craindre ni les hommes, ni les dieux. Ne vouloir rien de honteux, rien d'immodéré. Exercer sans limite la royauté de soi-même. Inestimable bien que celui de s'appartenir. Lettre 76. Sénèque, quoique vieux, prend encore des leçons. Il prouve de nouveau que l'honnête est le seul bien. N'estimez dans l'homme que son âme. Tu me menaces d'une brouille sérieuse si je te laisse rien ignorer de ce que je fais journellement. Vois comme j'en use franchement avec toi. Quelle confidence je vais te faire. J'assiste aux leçons d'un philosophe, et voilà 5 jours que je vais à son école, où, dès la 8e heure, je l'entends discuter. Bel âge pour s'instruire, diras-tu. Pourquoi non? N'est-ce pas le comble de la sottise que de s'autoriser d'avoir été longtemps sans apprendre pour n'apprendre plus? Qu'est-ce à dire? Me faut-il vivre en petit maître, en jeune homme? Ah, je bénis ma vieillesse, si telle est la seule inconvenance qu'on lui reproche. Cette école est faite pour les hommes de tout âge. Allons-y, nous autres vieillards, et les jeunes gens suivront. Quoi? J'irai au théâtre en cheveux blancs? Je me ferai porter au cirque? Pas un combat de gladiateur ne se donnera sans moi, et je rougirai d'aller entendre un philosophe. Il faut apprendre tant que l'on ignore, et, si j'en crois le proverbe, tant qu'on est en ce monde. Proverbe qui ne s'applique à nulle autre chose mieux qu'à la philosophie. Il faut apprendre l'art de vivre aussi longtemps que dure la vie. D'ailleurs, moi aussi j'enseigne quelque chose dans cette école. Quoi, diras-tu? Que le vieillard même doit apprendre. Je rougis pour l'espèce humaine chaque fois que j'entre dans l'école de Métronacte. Il faut, pour y arriver, passer, comme tu sais, devant le théâtre napolitain toujours encombré. Là, on discute, avec une extrême chaleur, la supériorité d'un joueur de flûte. On fait foule autour d'un trompette grec ou d'un héros qui proclame le vainqueur. Et ces bancs devant lesquels on recherche quel est l'homme vertueux, où l'on apprend à l'être, sont presque déserts. Ceux qu'on y voit passent dans le monde pour n'avoir rien de bon à faire. On les traite d'imbéciles et de fainéants. J'envie ces titres de dérision. Écoutons sans nous émouvoir les sarcasmes de l'ignorance. Qui marche vers l'honnête doit mépriser tous ces mépris-là. Poursuis, Lucilius, et hâte-toi, qu'il ne t'arrive pas, comme à moi, d'attendre si tard pour t'instruire. Hâte-toi même, d'autant plus que l'étude entreprise par toi ne s'achèvera qu'à peine sur tes vieux jours. Combien y ferai-je de progrès, dis-tu? Autant que tu feras d'efforts. Qu'attends-tu? La sagesse n'est pour personne un don du hasard. L'argent peut venir de lui-même. les honneurs t'être déférés, la faveur et les dignités se jeter à ta tête. La vertu ne tombera pas sur toi à l'improviste. Ce n'est pas au prix d'une légère peine, d'un mince travail qu'on la connaîtra. Mais est-ce trop qu'un labeur sérieux pour entrer en possession de tous les biens à la fois? Car le bien dans son unité, c'est l'honnête. Tu ne peux trouver rien de vrai, rien de sûr, dans tout ce qui séduit l'opinion. Établissons pourquoi l'unique bien est l'honnête, puisque tu juges que ma précédente lettre ne l'a point assez expliqué, et que je te semble avoir fait plutôt un éloge qu'une démonstration. Puis, je résumerai en peu de mots ce que j'aurais dit. Toute chose a son mérite propre et constitutif. La vigne se recommande par sa fertilité et par la saveur de son vin, le cerf par sa vitesse. Veux-tu savoir pourquoi la force des bêtes de somme est dans les reins? Parce qu'elles ne sont bonnes qu'à porter des fardeaux. La première qualité dans un chien est la finesse de l'odorat s'il doit aller en quête du gibier, l'agilité s'il doit le poursuivre, la hardiesse s'il est fait pour mordre et attaquer. Ce que chaque être doit avoir de meilleur en soi, c'est l'aptitude pour laquelle il est né qui lui donne son rang. Quelle est dans l'homme la meilleure chose? La raison. Par elle, il marche, roi des animaux. Il vient après les dieux. Cette raison perfectionnée est donc le bien propre de l'homme. Tout le reste lui est commun avec les brutes et les plantes. Il est fort? Le lion ne l'est-il pas? Il a la beauté? Le paon a la sienne? Il est prompt à la course? Le cheval aussi? J'omets de dire, sous ces trois rapports, il est inférieur. Je ne cherche point en quoi il excelle, mais ce qu'il possède seul. Il a un corps, les arbres en ont un. Il a des élans, des mouvements volontaires, de même la bête et le vermisseau. Il a une voix, mais combien le chien la plus éclatante, l'aigle plus perçante, le taureau plus grave, le rossignol plus douce et plus flexible. Quel est le privilège de l'homme? La raison. Quand cette raison a toute sa rectitude, quand elle est consommée, la félicité humaine est complète. Si donc tout bien perfectionné dans son essence et digne d'éloge est parvenu aux fins de sa nature, et si la raison est le bien de l'homme, l'homme est louable quand il l'a perfectionné, quand il a satisfait à sa vocation ici-bas. Cette raison parfaite, on l'appelle vertu, ou, ce qui est même chose, l'honnête. Le seul mérite qui soit en l'homme est donc celui qui seul vient de l'homme. Car nous ne cherchons pas maintenant ce que c'est que le bien, mais ce que c'est que le bien de l'homme. Si ce n'est pas autre chose que la raison, elle sera pour lui l'unique bien, mais qui compensera tous les biens du monde. L'homme méchant, sans doute, sera désapprouvé. Bon, on l'approuvera. Donc, le premier, le seul bien de l'homme, est ce par quoi on le prouve ou on le désapprouve. Tu ne doutes pas que ce ne soit un bien, tu doutes que ce soit le seul. Qu'un homme possède tous les autres avantages, santé, richesse, nombreuses images d'ancêtres, vestibules encombrés de clients, mais qu'on le reconnaisse pour malhonnête homme, il sera condamné par toi. Qu'un autre, n'ayant rien de ce que je viens d'énumérer, se trouve dénué de fortune, de clients, de noblesse, d'une longue série d'aïeux et de bisaïeux, mais que la voix publique le proclame vertueux, tu l'estimeras. Partant, le seul vrai bien est celui qui rend louable son possesseur, abandonné même de tout le reste, et qui appelle sur ceux qui ne l'ont pas, fussent-ils comblés de tous les autres biens, la réprobation et le mépris. Il en est des hommes comme des choses. On entend par un bon navire, non celui qui est peint de riches couleurs, ou dont la proue est d'or ou d'argent, et la divinité tutélaire sculptée en ivoire, ou qui porte l'argent du fisc et les trésors des rois, mais celui qui, ferme et solide, bien calfeutré contre les infiltrations de l'onde, assez fort pour rompre le choc des vagues, est docile au gouvernail, bon voilier, et garde au vent son équilibre. L'épée que tu juges bonne n'est pas celle qui pend à un baudrier doré, ni dont le fourreau est constellé de pierres précieuses. C'est celle qui, pour frapper, a le tranchant bien affilé, et dont la pointe percerait les plus dures cuirasses. On ne s'enquiert pas si une règle est plus ou moins belle, mais si elle est bien droite. Toute chose se prise en raison de sa destination, de la propriété qu'elle a. Ainsi, dans l'homme, il n'importe ce qu'il exploite d'arpents et de capitaux, combien de saluts il recueille, quel est le haut prix de son lit de table, le transparent de son vase à boire, combien est-il bon, voilà ce qui importe. Or, il est bon, si sa raison est développée dans toute sa rectitude, et selon ce que veut de lui sa nature. Voilà ce qu'on nomme vertu. Voilà le net et l'unique bien de l'homme. Car la raison seule nous rendant parfaits, la raison parfaite nous rend seul heureux. Par conséquent, l'unique bien de l'homme est ce qui seul fait son bonheur. Nous donnons aussi le nom de bien à tout ce qui émane de la vertu et emporte le cachet, en un mot, à toutes ses œuvres. Mais elle est elle-même l'unique bien à ce titre qu'il n'en existe aucun sans elle. Si tout bien réside dans l'âme, tout ce qui la fortifie, l'élève, l'agrandit, est bien. Or, qui rend l'âme forte, élevée, grande, sinon la vertu? Tout autre mobile, en excitant nos passions, abaisse en revanche et énerve l'âme, et, lorsqu'il semble la rehausser, la gonfle de mille chimères qui l'abusent. Il n'est donc qu'un vrai bien, celui qui améliore l'âme. Toutes les actions de la vie se règlent sur la considération de l'honneur ou de la honte qui en résulte. C'est par là qu'on se détermine à faire ou à ne pas faire. Développons cette pensée. Ce que l'homme de bien croira qu'il est honnête de faire, il le fera, si pénible que ce soit. Il le fera même à son détriment. Il le fera quand il y aurait danger pour lui. Mais une chose honteuse, il ne la fera jamais, dût-elle lui valoir richesse, plaisir, pouvoir. Nulle crainte ne le détournera de l'honnête, nul espoir ne l'engagera dans la honte. Si donc on le voit suivre à tout prix l'honnête, fuir à tout prix ce qui ne l'est pas, et dans tous les actes de sa vie n'envisager que deux seuls points, à savoir qu'il n'est d'autre bien que l'honnête et d'autre mal que son contraire, si la vertu est la seule qui ne se fausse point, qui garde toujours sa même rectitude, il n'est dès lors de bien que la vertu. Il ne peut arriver qu'elle cesse de l'être. Elle ne court plus risque de changer. L'erreur gravit vers la sagesse. La sagesse ne retombe point dans l'erreur. J'ai dit, tu te le rappelles peut-être, que dans un élan indélibéré, grand nombre d'hommes ont foulé aux pieds ce qu'ambitionne et ce que redoute le vulgaire. Il s'en est trouvé qui plongèrent leurs mains dans les flammes ou dont le bourreau ne put interrompre les rires. D'autres, aux funérailles de leurs fils, n'ont pas versé une larme. D'autres ont couru d'un pas intrépide au-devant de la mort. L'amour, la colère, la cupidité ont appelé de tous leurs vœux le péril. Ce que peut un entêtement passager, poussé par un mobile quelconque, combien la vertu ne le peut-elle pas davantage, elle qui ne va point par élan, par saillie, mais qui est soutenue dans son action permanente, dans son énergie. Il s'ensuit que des choses méprisées souvent par des gens sans lumière, toujours par le sage, ne sont ni des biens ni des maux, et que l'unique bien, c'est cette même vertu qui marche tête haute entre l'une et l'autre fortune, avec grand mépris pour toutes deux. Si tu admets l'opinion qu'il est encore d'autres biens que l'honnête, plus de vertu qui n'en soit ébranlée, pas une en effet qui se puisse maintenir, si elle aspire, en dehors d'elle-même, à quoi que ce soit. Cet état de choses répugne à la raison de laquelle les vertus procèdent, à la vérité qui n'existe point sans la raison. Et toute opinion qui répugne à la vérité est fausse. Tu m'accorderas nécessairement que le dévouement de l'homme de bien envers les dieux est absolu. Ainsi, quoi qu'il lui arrive, il le supportera sans murmure, sachant bien qu'ainsi l'a voulu la loi divine, d'après laquelle marche l'univers. Cela étant, il n'y aura pour lui d'autre bien que l'honnête, car l'honnête a pour loi d'obéir aux dieux, de ne pas s'indigner des coups imprévus, de ne pas déplorer son sort, mais d'en subir patiemment la nécessité et de satisfaire aux ordres d'en haut. Si en effet il était d'autre bien que l'honnête, il s'ensuivrait pour nous un amour effréné de la vie et de tout ce qui fait le matériel de la vie, passion intolérable, illimitée, jamais stable. Le seul bien est donc l'honnête, dont la limite est fixe. Nous avons dit que les hommes vivraient plus heureux que les dieux si les choses dont l'usage est étranger aux dieux étaient des biens, par exemple l'argent, les honneurs. Ajoute que, si toutefois l'âme dégagée du corps lui survit, son nouvel état est plus heureux que le premier, qui la tenait plongée dans la matière. Or, dans le système où les choses dont le corps fait usage seraient des biens, l'âme séparée du corps y perdrait. Et il est contre la vraisemblance qu'une âme libre, en possession de l'immensité, perde à ne plus être close et investie dans sa prison. Si ce sont des biens, avais-je dit en outre, que ces aventures dont la brute jouit ainsi que l'homme, la brute aussi possède la vie heureuse, ce qui de tout point est impossible. Il n'est rien que pour l'honnête on ne doive souffrir. Le devrait-on s'il y avait d'autres biens que l'honnête? Ce que j'avais développé plus au long dans ma précédente lettre, le voici en raccourci et dans un rapide exposé. Mais jamais tu n'admettras une pareille doctrine comme vraie qu'en exaltant ton âme, qu'en t'interrogeant de la sorte. Si le danger de la patrie exige que je meure pour elle et que je rachète le salut de tous par mon sang, présenterai-je la tête non seulement avec résignation, mais encore avec joie. Si tu es prêt à le faire, c'est qu'il n'est point d'autre bien que l'honnête. Tu quittes tout pour le posséder. Vois jusqu'où va sa puissance. Tu vas mourir pour la patrie, et s'il le faut, à l'instant même, dès que tu sauras qu'il le faut. Cet acte sublime t'abreuve en un instant court et fugitif d'une immense félicité. Et bien que, chez les morts, et notre rôle achevé sur la terre, on ne recueille aucun fruit de son sacrifice, la perspective du bien qu'il produira te comble de joie. Oui, l'homme de cœur, le juste, qui se représente comme prix de son trépas la liberté de son pays, le salut de tous ceux pour lesquels il s'immole. Cet homme jouit d'une volupté suprême, et ses périls sont des délices. Et dut-on lui ravir cette grande et dernière satisfaction que donne l'accomplissement d'une telle œuvre, il n'hésiterait pas à se précipiter dans la mort, heureux de son noble et pieux dévouement. Oppose-lui 1000 raisons pour retenir son élan. Dis-lui, ton action sera suivie d'un prompt oubli, de la froideur, de l'ingratitude de la cité. Tout cela, répondra-t-il, est en dehors de ce que je vais faire. Je vois mon acte en soi, ma conscience me dit qu'il est beau. Quelque part qu'elle me guide et m'appelle, je la suis. L'unique bien est d'une nature telle qu'il se fait sentir non seulement aux âmes parfaites, mais aux cœurs nobles par nature et bien doués. Tous les autres biens sont choses légères et changeantes. Aussi les possède-t-on avec anxiété. Si haut que les entasse sur une même tête la bienveillance du sort, c'est pour leur maître une lourde charge, embarrassante toujours, parfois même écrasante. De tous ces hommes que tu vois éclatant de pourpre, pas un n'est heureux, non plus que ces princes de théâtre pour qui le sceptre et la chlamyde sont un attribut de leur rôle, et qui, après avoir étalé en public leur haute stature et leur cothurne, à peine sortis de la scène, se déchaussent et redescendent à leur taille naturelle. Non, de tous ces personnages guindés bien haut sur un échafaudage d'honneur et de richesse, pas un n'est grand. Pourquoi donc le paraissent-ils? Tu mesures base et statue ensemble. Un nain sera toujours petit, eût-il une montagne pour piédestal, et un colosse toujours grand, fût-il descendu dans un puits. L'erreur dont nous souffrons, qui nous fascine, c'est que nous ne prisons jamais l'homme pour ce qu'il est. Nous ajoutons à la personne son entourage. Et pourtant, si l'on veut rechercher son vrai prix et savoir quel il est, c'est à nu qu'il faut l'examiner. Qu'il dépose devant toi ce patrimoine, ses honneurs et tous ces autres mensonges de la fortune. Dépouille-le même de son corps, n'envisage que son âme, ce qu'elle est, tout ce qu'elle est, si sa grandeur est personnelle ou d'emprunt. Voit-il, sans baisser la paupière, les glaives étincelants? Sait-il qu'il ne lui importe en rien que sa vie s'exhale de ses lèvres ou par sa gorge entr'ouverte? Donne-lui le nom d'heureux. Donne-le-lui, si à la menace de torture physique, de rigueur du sort, d'iniquité d'un homme puissant, si en présence des chaînes, de l'exil, de tous les fantômes dont s'épouvantent nos imaginations, il demeure impassible et dit « Nul péril à ma vue ne présente, ô prêtresse, une face imprévue. J'ai tout pesé d'avance et je suis préparée. » Ces menaces que tu me fais aujourd'hui, je me les suis faites en tout temps. Homme, je me tiens prêt aux accidents de l'humanité. D'un mal vécu, le choc ne vient plus qu'amorti. Mais pour les âmes irréfléchies et qui ont foi en la fortune, tous les événements ont une face nouvelle et inopinée. Et la nouveauté, chez ces sortes de gens, fait presque tout le mal. Vois pour preuve comme l'habitude leur donne le courage d'endurer ce qu'ils croyaient insupportable. C'est pourquoi le sage s'aguerrit contre les maux à venir. Et ce que les autres ne trouvent léger qu'après de longues souffrances, lui le rend tel en y pensant longtemps. On entend parfois cette exclamation échappée aux imprévoyants. Pouvais-je me douter que ce coup m'attendait? Mieux instruit, le sage les attend tous, quoi qu'il advienne. Il dit « Je le savais ». Lettre 77. La flotte d'Alexandrie, mort volontaire de Marcellus, jugée d'une vie par son dénouement. Aujourd'hui, à l'improviste, nous avons vu paraître les navires d'Alexandrie qu'on dépêche toujours en avant pour annoncer la flotte qui doit les suivre. On les nomme Tabellaires. Leur vue est une fête pour la compagnie. La population de Pouzzole est toute sur les jetées et reconnaît à la forme des voiles, parmi une foule d'autres navires, les Alexandrins. Car ils ont seuls le droit d'arborer la voile de perroquet, le ciparum, dont les autres ne font usage qu'en pleine mer. Rien, en effet, ne facilite la course comme les hautes voiles. C'est de là que le bâtiment reçoit sa plus forte impulsion. Aussi, quand le vent augmente et devient plus grand qu'il ne faut, on baisse l'antenne. Le souffle a moins de force quand il donne par le bas. Lorsque les vaisseaux sont dans les eaux de Capré et de l'orageux promontoire, d'où Pallas voit au loin les flots se balancer, la règle est qu'ils se contentent de la grande voile. Ceux d'Alexandrie ont seuls le ciparum pour insigne. Tandis que, de divers points où le monde courait au rivage, je me suis senti vraiment heureux de ma paresse. Au moment de recevoir des lettres de mes correspondants, je ne me suis point hâté de savoir en quel état se trouvaient mes affaires, quelles nouvelles m'arrivaient. Depuis longtemps, pertes et gains me sont étrangers. Je devrais prendre ainsi les choses, quand même je ne serais pas vieux. À plus forte raison, dans un âge où, si peu que je posséderais, il me resterait plus de provisions que de chemin à faire. Surtout, quand celui où nous sommes entrés n'exige pas qu'on aille jusqu'au bout. Un voyage est inachevé si l'on s'arrête à mi-chemin ou en deçà du terme où on tend. La vie n'est point inachevée si elle est honnête. N'importe où elle finit, si elle finit bien, elle est complète. Mais souvent, il faut avoir le courage de finir, même sans motif bien puissant. Sont-ils bien puissants, ceux qui nous retiennent? Tullius Marcellinus, que tu as très bien connu, paisible jeune homme et vieux de bonheur, frappé d'une maladie qui, sans être incurable, devenait longue, assujettissante, exigeante, s'est avisé de délibérer s'il se ferait mourir. Ses amis convoqués vinrent en foule. Les pusillanimes lui donnaient le conseil qu'eux-mêmes se seraient donné. Les autres, flatteurs et complaisants, opinaient dans le sens qu'ils présumaient lui devoir agréer le plus. Un stoïcien de nos amis, personnage d'un rare mérite, et pour faire en deux mots son digne éloge, homme ferme et d'un vrai courage, lui adressa, selon moi, la plus belle des exhortations. Il débuta ainsi. « Mon cher Marcellinus, ne te mets pas l'esprit à la torture comme s'il s'agissait d'une bien grande affaire. Ce n'est pas une chose si importante que de vivre. Tous tes esclaves, tous les animaux vivent. L'important est de mourir noblement, en sage, en homme de cœur. Songe que de temps passé à ne faire que la même chose, la table, le sommeil, les femmes. Voilà le cercle où roule la vie. Et on peut vouloir mourir sans avoir grande sagesse ni grand courage, ou sans être fort malheureux. Il suffit qu'on s'ennuie de vivre. » Marcellinus n'avait pas besoin qu'on l'excitât, mais qu'on l'aidât à mourir. En quoi ses esclaves lui refusaient l'obéissance? Le stoïcien commença par dissiper leurs craintes, en leur apprenant que des esclaves ne couraient de risques qu'autant qu'il ne serait point certain que la mort du maître eût été volontaire. Que d'ailleurs, il était d'aussi mauvais exemple d'empêcher son maître de mourir que de l'assassiner. Puis, il rappelle à Marcellinus qu'il ne serait pas mal, tout comme au sortir de la table on partage la desserte aux valets qui l'entourent, de faire, en sortant de ce monde, quelques dons à ceux qui avaient été les serviteurs de toute sa vie. Marcellinus était facile et libéral, au temps même où c'était encore du sien qu'il donnait. Il distribua de légères sommes à ses esclaves en pleurs, qu'il prenait lui-même soin de consoler. Il n'eut pas besoin de faire d'effusion de sang. Il s'abstint 3 jours de nourriture. Il fit dresser dans sa chambre une tente à baignoire, puis on apporta la baignoire même où il resta longtemps couché. L'eau chaude qu'on y versait de temps à autre le fit insensiblement défaillir, et cela, comme il disait, non sans une certaine jouissance que procure d'ordinaire ce doux anéantissement bien connu de moi, qui ai plus d'une fois perdu connaissance. Je me suis laissé aller à ce récit qui t'intéressera sans doute. Tu y verras comment a fini ton ami, sans agonie et sans souffrir. Car, bien qu'il l'eût provoqué, il est entré mollement dans la mort. Il a glissé hors de cette vie. Ce récit, d'ailleurs, peut ne pas être inutile. Souvent, la nécessité nous appelle à donner de pareils exemples. Souvent, le devoir nous dit de mourir et nous résistons. La nature nous y force et nous résistons. Nul n'est stupide, au point d'ignorer qu'il doit un jour cesser d'être. Pourtant, approche-t-il de ce grand jour, il tergiverse, il tremble, il gémit. Ne te semblerait-il point le plus fou des hommes, celui qui pleurerait de n'être pas au monde depuis 1000 ans? Non moins fou est celui qui pleure parce que dans 1000 ans il n'y sera plus. N'être plus, n'avoir pas été, n'est-ce point la même chose? Ni l'une ni l'autre époque ne t'appartiennent. Jeter sur un point du temps, quand tu pourrais l'étendre à ce point, jusqu'où l'étendras-tu? Pourquoi ces pleurs, ces souhaits, peine perdue, n'espère rien du sort, il est sourd aux prières? Tout est réglé sans retour, et tout marche d'après la grande et éternelle loi de fatalité. Tu iras où vont toutes choses. Est-ce donc pour toi une condition nouvelle? C'est celle de ta naissance. Ça a été le sort de ton père, de ta mère, de tes aïeux, de tous ceux qui t'ont précédé, comme de tous ceux qui te suivront. Une chaîne indissoluble, où nul effort ne peut rien changer, embrasse et traîne tout avec elle. Que de morts ont peuplé les tombeaux avant toi? Combien s'y acheminent derrière toi? Combien y entreront avec toi? Tu serais, j'imagine, plus résolu si tu mourais de compagnie avec plusieurs milliers d'hommes. Eh bien, des milliers d'hommes et d'animaux, en ce moment même où tu hésites à mourir, exhalent leur vie de diverses manières. Et toi seul, ne pensais-tu pas qu'enfin tu arriverais où tu n'as cessé de tendre? Point de chemin qui n'aboutisse. Tu crois qu'ici je vais rapporter des exemples de grands hommes? Ce sont des enfants que je te veux citer. On nous a transmis le souvenir de ce Spartiate encore impubère qui, fait prisonnier, criait dans son dialecte dorien « Non, je ne servirai pas. » Et l'effet répondit à la parole. À la première chose servile et dégradante qui lui fut commandée, il s'agissait d'apporter un vase destiné à d'ignobles besoins, il se brisa la tête contre la muraille. La liberté est si près de nous, et des hommes consentent à servir. Ne voudrais-tu pas voir ton fils plutôt périr ainsi que ramper lâchement pour vieillir? Pourquoi donc tant d'angoisse, quand une mort courageuse est l'acte d'un enfant? Si tu ne veux pas suivre, tu seras entraîné. Empare-toi des droits qu'a sur toi l'extérieur. N'auras-tu pas, comme cet enfant, le cœur de dire « Je ne suis plus esclave ?» Hélas, tu es esclave des hommes, esclave des choses, esclave de la vie, car la vie, pour qui n'ose mourir, est un esclavage. Et qu'as-tu qui t'oblige d'attendre? Les plaisirs qui t'arrêtent, qui te retiennent, tu les as épuisés. Il n'en est plus qui soit nouveau pour toi, plus qui ne te rebute par la satiété même. La saveur du vin pur, du vin miellé, tu les connais. Qu'importe que 100 ou 1000 amphores passent par ta vessie, tu n'es qu'un filtre à liqueur. Blasé sur la délicatesse des coquillages, du rouget, ta soif de jouir ne t'a pas laissé, pour l'avenir, une seule fleur qui ne soit fanée. Voilà pourtant à quoi tu as tant de peine à t'arracher. Qu'y a-t-il encore dont il te fâche d'être privé? Tes amis? Ta patrie? Pour l'amour d'elle, dis-moi, retarderais-tu ton souper? Toi qui, pour l'avancer, éteindrais, si tu pouvais, le soleil. Car qu'as-tu jamais fait qui soit digne de la lumière? Confesse que ce n'est ni le Sénat, ni le Forum, ni même cette belle nature que tu regrettes, qui te rend si lent à mourir. Tu gémis de laisser à d'autres le marché aux vivres, où tu n'as rien laissé. Tu crains la mort, et tu la braves si bien au sein de tes orgies. Tu veux vivre. Tu sais donc comment on doit vivre? Tu crains de mourir. Et ta vie n'est-elle pas une vraie mort? Un jour que César traversait la Voie Latine, il rencontra la chaîne des forçats, et l'un d'eux, vieillard dont la barbe descendait jusque sur la poitrine, lui demanda la grâce de mourir. « Est-ce que tu vis ?» répondit Caius. C'est la réponse à faire à tous ceux pour qui la mort serait un bienfait. « Tu crains de mourir. Est-ce que tu vis ?»« Mais, diras-tu, je veux vivre, moi qui fais si bien ma tâche d'honnête homme. Je quitte à regret des devoirs que je remplis avec conscience et avec zèle. Quoi? Ne sais-tu pas que mourir est aussi un des devoirs de la vie? Tes devoirs? Auxquels renonces-tu? Le chiffre ici n'est pas certain. Le cercle à remplir bien précis. Point de vie qui ne soit courte. Comparée à la durée de l'univers, celle de Nestor et de Statilia ont fini trop tôt. De Statilia qui fit graver sur son tombeau qu'elle avait vécu 99 ans. Admire la sotte vanité de cette vieille, et à quel degré plus choquant ne l'eût-elle pas poussée s'il lui eût été donné de parfaire la centaine. Il en est ainsi de la vie comme d'un drame, où ce n'est pas la durée, mais la bonne conduite qui importe. Il est indifférent que tu finisses à tel ou tel point. Finis où tu voudras. Seulement, que le dénouement soit bon. Lettre 78. Le mépris de la mort, remède à tous les maux. L'opinion, mesure des biens et des maux. Les catarrhes fréquents qui te tourmentent et tes petits accès de fièvre qu'amène le prolongement de ces affections devenues chroniques me chagrinent d'autant plus que j'ai éprouvé ce genre de mal. Dans le principe, je n'en ai pas tenu compte. Jeune encore, je pouvais supporter de pareilles atteintes et bravement tenir tête aux maladies. J'ai fini par être le moins fort. Et j'ai vu se fondre jusqu'à mon corps, réduit à une extrême maigreur. J'ai pris, maintes fois, le brusque parti de rompre avec la vie. je fus retenu par la vieillesse du plus tendre des pères. Je calculai non pas combien j'avais de courage pour mourir, mais le peu qu'il en aurait pour supporter ma perte. Et je m'imposai la loi de vivre, ce qui souvent aussi est un acte de courage. Quelles furent alors mes consolations? Tu vas le savoir, mais apprends d'abord que ces principes mêmes de résignation furent pour moi comme un remède souverain. Il est de hautes consolations qui arrivent à nous guérir, et tout ce qui relève le moral est salutaire, même au physique. Nos études m'ont sauvé. Je reporte à la philosophie l'honneur de mon rétablissement, du retour de mes forces. Je lui dois la vie, et c'est la moindre de mes dettes envers elle. Ce qui n'a pas peu contribué à ma guérison, ce sont mes amis, dont les exhortations, les veilles, les entretiens me soulageaient. Oui, mon excellent Lucilius, rien ne ranime et ne réconforte un malade comme l'affection de ses amis. Rien ne le dérobe mieux à l'attente et aux terreurs de la mort. Je ne m'imaginais pas mourir en les laissant après moi. Il me semblait, en vérité, que j'allais vivre en eux, sinon avec eux. Je ne croyais pas rendre l'âme, mais la leur transmettre. Voilà où j'ai puisé la volonté de m'aider moi-même et d'endurer toute espèce de souffrance. Autrement, c'est une grande misère, quand on a repoussé la résolution de mourir, que de n'avoir pas le courage de vivre. Fais appel à ces mêmes remèdes. Le médecin te prescrira la mesure des promenades et des exercices. Ne cédez pas, dira-t-il, à cette propension au rien faire, vers lequel incline une santé languissante. Lisez à haute voix, exercez cette respiration dont les voies et le réservoir sont embarrassés. Montez sur un navire dont le doux balancement secoura vos viscères. Prenez telle nourriture. Ayez recours au vin comme fortifiant. Suspendez-en l'usage s'il peut irriter et aigrir votre toux. Ce que je te prescris, moi, c'est le spécifique non seulement de ton mal actuel, mais de la vie entière, le mépris de la mort. Rien n'est pénible pour qui a cessé de la craindre. Trois choses dans toute maladie sont amères. Crainte de la mort, douleur physique, interruption des plaisirs. J'en ai dit assez sur la mort, n'ajoutant qu'un mot. Ici, ce n'est pas la maladie, c'est la nature qui craint. Que de gens dont la maladie a reculé la mort et dont le salut a tenu à ce qu'on les croyait mourants. Tu mourras non parce que tu es malade, mais parce que tu vis. Cette crise t'attend même en santé. Que tu guérisses, tu n'y échapperas point. Tu ne te sauveras que de la maladie. Quant à l'inconvénient d'être malade, sans doute de grandes souffrances accompagnent cet état. Mais grâce aux intermittences, elles sont supportables. L'extrême intensité de la douleur en amène le terme. Nul ne peut souffrir avec violence et longtemps. La nature, en mère tendre, nous a conformés de telle sorte que la douleur ou nous fut supportable ou passa vite. Les plus violentes ont pour siège les parties les moins charnues du corps, les nerfs, les articulations. Tout ce qu'il y a de ténu dans l'homme donne prise aux atteintes les plus vives parce que le mal y est à l'étroit. Mais ces mêmes parties s'engourdissent promptement. À force de douleur, l'aiguillon douloureux se brise. Soit que l'esprit vital, entravé dans son cours naturel, dégénère et perde cette vigueur agissante qui avertit nos sens. Soit que l'humeur viciée, n'ayant plus où s'épandre, se refoule sur elle-même et frappe d'insensibilité les organes où elle afflue. La goutte aux pieds ou aux mains et toutes les douleurs des vertèbres et des nerfs ont des intervalles de repos quand la partie torturée ne réagit plus. Les premiers élancements causent un vif malaise qui, en se prolongeant, s'amortit et la souffrance s'arrête à l'engourdissement. Les dents, les yeux, les oreilles sont le siège d'affections d'autant plus aiguës qu'elles naissent sur les points les moins étendus de notre corps. Il en est de même, certes, pour les maux de tête. Mais plus ils sont vifs, plus tôt l'insensibilité et l'assoupissement leur succèdent. Ce qui donc doit consoler dans les grandes souffrances, c'est que nécessairement la sensation cesse dès qu'elle est trop poignante. Mais pourquoi les douleurs physiques sont-elles si importunes aux grossiers vulgaires? C'est qu'il n'est point fait aux méditations de l'esprit. C'est qu'il a trop donné au corps. Aussi l'homme, dont le cœur et les vues sont élevés, tient-il son âme indépendante du corps. Il cultive surtout la meilleure, la divine partie de lui-même. Pour l'autre, quinteuse et fragile, il ne compte avec elle que le moins possible. Mais il en coûte d'être sevré de ses plaisirs habituels, de s'abstenir de nourriture, de souffrir la soif et la faim. Les premiers jours de privation sont durs, mais les désirs vont ensuite s'émoussant à mesure que les organes de ces mêmes désirs se lassent et s'affaiblissent. De là les susceptibilités de l'estomac. De là, l'antipathie pour les choses dont on fut avide. De là, la mort même des désirs. Or, qu'y a-t-il de pénible à n'avoir pas ce qu'on ne désire plus? Et puis, toute douleur a ses heures de relâche, ou du moins, ses adoucissements. Et puis, on peut et en prévenir la venue et en repousser l'approche par des préservatifs, car toujours elle est précédée de symptômes, surtout celles qui reviennent habituellement. Les souffrances de la maladie sont supportables pour qui brave sa suprême menace. Ne va pas toi-même aggraver tes maux et t'achever par tes plaintes. Ils pèseront peu si l'opinion n'y ajoute point, et surtout si l'on s'encourage en disant « ce n'est rien ». Ou du moins, c'est peu de chose. Sachons l'endurer, cela va finir. Tu rends le mal léger en le jugeant tel. Tout dépend de l'opinion. L'ambition, la mollesse, la cupidité ne sont pas seules à se régler sur elles. L'opinion est la mesure de nos douleurs. On est misérable en proportion de ce qu'on croit l'être. Je voudrais qu'on renonçât à se lamenter sur des souffrances qui sont déjà loin. Point de ces exclamations. Jamais homme ne fut plus malheureux. Quel tourment, quel supplice j'ai enduré. Personne n'eût cru que j'y survivrais. Que de fois les miens m'ont pleuré comme mort. Que de fois les médecins m'ont abandonné. Ceux qu'on lie au chevalet ne sont pas torturés de la sorte. Tout cela fut-il vrai, ces choses passées? Que sert de remanier des plaies qui sont fermées et d'être malheureux parce qu'on l'a été jadis? Et quelle est cette manie qu'a tout homme d'exagérer ses misères et de se mentir à lui-même? Puis, on aime à raconter ses peines. Il est naturel qu'on se réjouisse de la fin de ses maux. Loin de nous, donc, tout à la fois, et la crainte de l'avenir, et les retours sur un passé désagréable. Celui-ci ne m'est plus rien, l'autre ne me touche pas encore. Au sein même des crises les plus difficiles, que l'homme se dise, ces souvenirs un jour peut-être auront leur charme. Qu'il lutte de tout son courage contre la douleur, il sera vaincu pour peu qu'il lui cède. Il la vaincra s'il se roidit contre elle. Mais que font la plupart des hommes? Ils attirent sur eux la chute du fardeau qu'ils devraient soutenir. Cette masse qui est tout proche, qui descend, qui déjà te pèse, si tu veux t'y soustraire, te suit, écroule plus accablante encore. Tiens ferme et redouble d'efforts, tu la repousseras. Que de rudes coups l'athlète n'essuie-t-il pas sur le visage et sur tout le corps? Point de tourment toutefois qu'il n'endure par amour de la gloire, et qu'il n'endure non seulement parce qu'il combat, mais pour combattre. Ces exercices sont déjà des tourments. Nous aussi, sachons tout surmonter. Nous aurons pour prix non point une couronne, une palme ou le son de la trompette, comme dans le silence, pour qu'on proclame notre nom, mais la vertu et la fermeté de l'âme, et la paix du reste de nos jours, si une fois, dans quelque rencontre, nous avons mis la fortune hors de combat. Mais je sens de cruelles douleurs. Qu'est-ce à dire? Les sens-tu moins quand tu les supportes en femme? De même que l'ennemi est surtout fatal aux fuyards, ainsi, les désagréments de l'extérieur harcèle bien plus quiconque veut s'y dérober et tourner le dos. Mais la charge est lourde, et n'avons-nous reçu la force que pour de légers fardeaux? Lequel préfères-tu? Que la maladie soit longue ou qu'elle soit violente et courte? Longue, tu as du relâche, elle donne moyen de respirer, de longs moments où elle fait grâce. Il lui faut des heures d'irritation et de calme. Une maladie courte et précipitée s'éteindra d'elle-même ou elle m'éteindra. Or, où est la différence, qu'elle finisse ou que je finisse? Dans les deux cas, plus de souffrance. Tu te trouveras bien aussi de distraire ton esprit vers d'autres pensées et de l'enlever à celle de la douleur. Rappelle-toi tout ce que tu as fait d'honorable et de courageux. Considère les beaux côtés du rôle humain. Promène tes souvenirs sur les grands traits qui ont le plus excité ton admiration. Évoque ces hommes intrépides qui triomphèrent de la douleur. Celui qui, pendant que l'on incisait ses varices, n'en poursuivait pas moins sa lecture. Celui qui ne cessa pas de rire, alors qu'irrité par là même les bourreaux épuisaient sur lui tous les raffinements de la cruauté. La raison ne vaincra-t-elle pas la douleur que le rire a vaincue? Cite-moi telle affection que tu voudras, cathare, tout violente, et continue qui arrache les poumons par lambeaux, fièvre qui dévore les entrailles, tourment de la soif, membres distordus par le mal qui en déjette les articulations. Ce qui est pire, c'est la flamme des tortures. Le chevalet, les lames ardentes et le fer enfoncés dans la tumeur même de la plaie pour la raviver, pour creuser encore plus avant. Au milieu pourtant de tous ces supplices, tel homme a pu ne point gémir, que dis-je, ne point supplier, ne rien répondre. Il a pu rire, et rire franchement. Et tu n'oserais pas, après cela, te railler de la douleur? Mais la maladie ne me permet de rien faire, de vaquer à aucun devoir. Ton corps seul est valétudinaire, ton âme ne l'est point. La maladie arrête les pieds du coureur, enchaîne les mains du cordonnier et de l'artisan. Mais si tu as coutume d'employer ton intelligence, tu pourras donner conseils et leçons, écouter, apprendre, interroger, te ressouvenir. Après tout, n'est-ce rien faire que d'être un malade raisonnable? Tu feras voir qu'on peut surmonter la maladie ou du moins la supporter. Ah, crois-moi, même chez l'homme gisant dans son lit, il y a place pour le courage. Ce n'est pas seulement dans le choc des armes et dans la mêlée que l'on juge une âme énergique, indomptable à toute espèce d'effroi. Même sur sa couche, l'homme de cœur se révèle. tu as ton œuvre à faire. Lutte bravement contre le mal. S'il ne t'arrache rien de force ou de surprise, tu donnes un noble exemple aux autres. Oh, que de gloire à recueillir de la maladie, si nous y étions en spectacle. Sois à toi-même ton spectateur, ton admirateur. Mais poursuivons. Il y a deux sortes de volupté. Celle du corps. La maladie les suspend sans en tarir la source, ou pour dire vrai, en la ravivant. On boit avec plus de plaisir quand on a soif, et l'affamé trouve les mets bien plus savoureux. Toute jouissance qui suit la privation est plus avidement saisie. Mais les voluptés de l'âme, plus grandes et plus certaines, nul médecin ne les défend aux malades. Quiconque les recherche, les goûte avec intelligence, dédaigne tout ce qui chatouille les sens. Que je te plains d'être malade. Tu ne bois plus ton vin à la neige. Tu ne renouvelles plus la fraîcheur de ton breuvage en laissant tomber dans ta large coupe des morceaux de glace. L'huître de Lucrin ne s'ouvre plus pour toi sur ta table même. Des valets d'office ne s'agitent plus en foule autour de tes convives, apportant les fourneaux mêmes avec les plats. Car tel est le procédé que vient d'inventer la mollesse. De peur qu'un mets ne tiédisse et ne soit pas assez brûlant pour des palais que rien ne réveille plus, le festin entre avec la cuisine. Que je te plains d'être malade. Tu ne mangeras que ce que tu pourras digérer. Tu n'auras pas étalé sous tes yeux un sanglier renvoyé ensuite comme viande trop grossière. Tu n'entasseras pas en pyramide sur un bassin des poitrines d'oiseaux, car l'oiseau entier rebute à voir. Où est pour toi le mal? Tu mangeras en malade, disons mieux, comme doit manger souvent l'homme sain. Mais nous supporterons tout cela sans peine, et la tisane, et l'eau chaude, et tout ce qui semble intolérable à notre délicatesse énervée par le luxe, à nos âmes, plus maladives que nos corps, pourvu qu'à nos yeux, la mort cesse d'être un objet d'horreur. Elle cessera de l'être si la limite des biens et des maux nous est connue. Alors, enfin, ni dégoût de la vie, ni frayeur de la mort. Comment, en effet, y aurait-il place pour la satiété dans une existence occupée de tant de choses si variées, si grandes, si divines? Ce qui toujours nous rend à charge à nous-mêmes, c'est l'inertie dans le loisir. À l'homme qui parcourt le domaine de la nature, jamais la vérité n'apporte l'ennui. Mais le faux rassasie bien vite. D'autre part, si la mort approche et l'appelle, fût-ce prématurément, fût-ce au milieu de sa carrière brisée, il n'en a pas moins cueilli longtemps les fruits de la vie et connu en grande partie la nature. Il sait que la vertu ne croît pas en raison du temps. Cela trouve nécessairement la vie courte qui lui donne pour mesure des voluptés chimériques dès lors sans limite. Que de telles pensées te réconfortent et que le travail de notre correspondance y contribue aussi parfois. Un jour viendra où, rapprochés de nouveau, nous ne ferons plus qu'un. Et si courts que soient ces moments, nous les ferons longs en les utilisant. Car, comme le dit Posidonius, un seul jour de l'homme instruit a plus d'étendue que la plus longue vie de l'ignorant. En attendant, attache-toi, cramponne-toi à ce principe. Ne point succomber aux rigueurs du sort, ne pas nous fier à ses faveurs, ne jamais perdre de vue jusqu'au vent ses caprices, et nous figurer que tout ce qu'il peut faire, il le fera. Toute épreuve longtemps attendue est plus légère quand elle arrive. Lettre 79. Scylla, Charybde, l'Etna. La gloire et l'ombre de la vertu. J'attends que tes lettres me signalent ce que ta tournée dans la Sicile entière t'aura fait voir de nouveau, et tout ce qu'on a dit de positif sur Charybde. Qu'en effet, Scylla ne soit qu'un rocher qui même n'effraie point les navigateurs, je le sais parfaitement. Mais Charybde, répond-elle bien aux histoires qu'on en fait? Je le voudrais savoir au juste. Et si par hasard tu l'as observée, la chose en vaut la peine. Éclaire-nous sur cette question. Le tournoiement du détroit n'a-t-il lieu que sous l'action d'un seul vent? Ou bien toute espèce de bourrasque produit-elle le même résultat? Est-il vrai enfin que tout ce que saisit ce courant circulaire est entraîné sous l'eau l'espace de plusieurs milles et ne reparaît que vers la côte de Tauromémium? Quand tu m'auras bien marqué tout cela, j'oserai alors te prier de gravir en mon honneur le mont Etna, qui se consume et s'affaisse insensiblement selon certains raisonneurs, attendu qu'autrefois on le voyait de plus loin en mer. Cela peut provenir non de ce que la montagne a baissé de hauteur, mais de l'évaporation du feu, moins violent, moins large dans ses éruptions, et qui par là même exhale de jour une fumée plus faible. Au reste, il est également croyable qu'une montagne minée journellement par le feu s'amoindrisse, et que ce feu diminue, puisqu'il ne procède pas de lui-même, puisqu'il s'engendre dans quelque vallée souterraine d'où il sort en torrent, et qu'enfin il se nourrit d'autres feux et trouve dans la montagne non un aliment, mais un soupirail. Il y a en Lycie une contrée bien connue que les habitants nomment Héphestion. C'est un sol percé en plusieurs endroits et entouré d'une ceinture de feux inoffensifs qui n'endommage nullement ses productions. Pays fertile, couvert d'herbages, où rien ne souffre de cette flamme amortie et languissante comme la lueur qu'elle donne. Mais remettons à traiter ces questions après que tu m'auras écrit à quelle distance du cratère de l'Etna se trouvent ces neiges que l'été même ne font pas, que dis-je, qui craignent si peu le voisinage du feu volcanique. Toutefois, ne me rends pas comptable de toute cette peine. Ta passion pour les vers gagnerait sur toi quand nul ne t'en viendrait prier de compléter ta description de l'Etna, car ta modestie ne t'empêche pas d'aborder ce texte favori de tous les poètes. Ovide l'a traité sans être découragé par Virgile, qui l'avait si heureusement fait. Et enfin, Severus Cornelius n'en fut pas détourné par ces deux grands noms. Le sujet, d'ailleurs, a été fécond pour tous, et les premiers venus n'ont pas épuisé, ce me semble, ce qu'on pouvait en dire. Ils ont ouvert la mine. Il y a bien de la différence entre une matière épuisée et celle qu'on attaque déjà exploitée par d'autres. Chaque jour, elle se montre plus riche, et les anciennes découvertes ne font point obstacle aux nouvelles. Et puis, l'avantage est pour le dernier venu. Il trouve des mots tout prêts qui, différemment mis en œuvre, prennent une physionomie nouvelle. Ce n'est point là mettre la main sur le bien d'autrui, car ils sont du domaine public, et les jurisconsultes nient que le domaine public s'acquiert par usurpation. Si je te connais bien, l'Etna te fait déjà, comme on dit, venir l'eau à la bouche. Tu brûles d'enfanter quelque œuvre grandiose et digne de tes devanciers. Ta modestie ne te permet pas d'espérer plus. Elle est telle que tu enchaînerais toi-même, je crois, l'essor de ton génie si tu risquais de vaincre tes modèles, tant tu as pour eux de vénération. Entre autres avantages, la sagesse a celui-ci, que ses poursuivants ne peuvent se dépasser les uns les autres qu'en gravissant vers elle. Arrivé au sommet, tout est égal, plus d'avancement possible, c'est le point d'arrêt. Le soleil peut-il gagner quelque chose en grandeur? La lune excéder les dimensions ordinaires de son disque? Les mers ne s'accroissent point. Le monde conserve la même forme et les mêmes limites. Tout ce qui a rempli ses proportions naturelles ne peut plus grandir. Tous ceux qui auront atteint la sagesse seront égaux, seront pairs entre eux. Chacun d'eux aura ses qualités à lui. Tel sera plus affable ou plus alerte, ou parlera plus facilement, plus éloquemment que tel autre. Mais le point essentiel, mais ce qui fait le bonheur, sera égal chez tous. Que ton Etna puisse s'affaisser et crouler sur lui-même, que cette gigantesque cime qui frappe les regards de si loin en mer soit minée continuellement par l'action du feu, c'est ce que j'ignore. Mais la vertu, ni flamme ni écroulement ne la feront tomber au-dessous d'elle-même. C'est la seule grandeur qui ne connaisse point d'abaissement, qu'on ne puisse ni porter au-delà, ni refouler en arrière. Elle est comme l'écorce céleste, invariable dans sa hauteur. Efforçons-nous de nous élever jusqu'à elle. Nous avons déjà fait beaucoup. Ou, pour dire mieux et plus vrai, nous avons fait trop peu. Car ce n'est pas bon que de valoir mieux que les plus mauvais. Se vante-t-il d'avoir de bons yeux celui qui est en doute s'il fait jour, et pour qui le soleil ne luit qu'à travers un brouillard? Il a beau, parfois, se trouver heureux d'avoir échappé à la cécité. Il ne jouit pas encore du bienfait de la lumière. Notre âme aura lieu de se féliciter lorsqu'affranchie des ténèbres où elle se débat, elle pourra non plus entrevoir d'indécises lueurs, mais se pénétrer toutes de grands jours, lorsque, rendue au ciel de sa patrie, elle retrouvera la place qu'elle occupait déjà quand le sort la fit naître. Là-haut l'appelle sa naissance. Elle y sera, même avant de quitter cette prison du corps, quand, jetant loin d'elle toute souillure, elle s'élancera, pure et légère, dans la sphère des célestes pensées. Voilà notre tâche, mon cher Lucilius. Voilà où se doit porter toute notre ardeur. N'y eut-il que peu d'hommes, n'y eut-il personne pour le savoir. La gloire est l'ombre de la vertu. Elle l'accompagne même en dépit d'elle. Mais, comme l'ombre tantôt marche devant, tantôt à côté de nous et tantôt derrière, ainsi la gloire, quelquefois, nous précède et frappe tous les regards. D'autres fois, elle nous suit, d'autant plus grande qu'elle est plus tardive. L'envie alors s'est retirée. Combien de temps Démocrite n'a-t-il point passé pour un fou? La renommée eut peine à accueillir Socrate. Combien de temps Caton ne fut-il pas méconnu de Rome? On le repoussa, on ne le comprit qu'après l'avoir perdu. L'innocence et la vertu de Rutilius seraient ignorées sans l'iniquité qu'il a subie. L'outrage l'a fait resplendir. Ne dut-il pas rendre grâce à son infortune et chérir son exil? Je parle ici d'hommes que le sort a illustrés en les persécutant. Mais combien d'œuvres méritoires venues au grand jour après la mort de leurs auteurs? Que de noms négligés puis exhumés par la gloire? Vois Épicure, si fort admiré non seulement des hommes qu'a poli l'étude, mais aussi de la masse ignorante. Il était inconnu même à Athènes, aux environs de laquelle il cacha sa vie. Aussi, comme il survivait déjà de plusieurs années à son cher maître d'or, dans une lettre, véritable hymne de reconnaissance, dicté par les souvenirs d'une mutuelle tendresse, il termine en disant que les charmes de leur union n'avaient rien perdu à ce que cette Grèce si riche en illustrations les eût laissés, maître d'or et lui, dans l'obscurité et presque dans un oubli absolu. Plus tard, pourtant, quand il eut cessé d'être, n'a-t-on pas su le découvrir? Sa doctrine en a-t-elle eu moins d'éclat? Maître d'or aussi nous apprend par une de ses lettres qu'Épicure et lui n'avaient point été placés à leur hauteur, mais que leur nom fait pour l'avenir grandirait, comme celui de quiconque aurait marché résolument sur leurs traces. Aucune vertu ne demeure cachée, le fut-elle pour un temps. Elle n'en souffrira point. Le jour viendra qui, des ténèbres où la tenait plongée l'envie contemporaine, doit la produire à la lumière. Il est né pour peu d'hommes, celui dont la pensée ne s'adresse qu'à son siècle. Des milliers d'années, des générations nouvelles vont te suivre. C'est là qu'il faut jeter la vue. L'envie eût-elle imposé silence à tous les hommes de ton époque, il te naîtra des juges qui, sans faveur ni haine, sauront apprécier. Si la renommée est pour la vertu une récompense de plus, celle-là même n'est jamais perdue. Les discours de la postérité ne nous toucheront plus, sans doute, mais tout insensibles que nous y serons, elle aura pour nous des hommages et de fréquents souvenirs. Il n'est personne qui, vivant et après sa mort, n'ait été payé de sa vertu s'il l'a franchement embrassée, s'il ne l'a point prise comme un costume et un fard trompeur, s'il a été trouvé le même et dans les visites annoncées et quand on l'a surpris à l'improviste. Rien ne sert de se déguiser. Trop peu d'yeux s'en laissent imposer par un extérieur qu'un vernis léger décore. Au dehors comme au dedans, le vrai seul est toujours le même. Les faux semblants n'ont point de consistance. Rien n'est plus mince que le mensonge. Il est transparent si l'on y regarde de près. Lettre 80. Futilité des spectacles. Certains grands comparés à des comédiens. Je m'appartiens pour cette journée, et je le dois moins à moi-même qu'au spectacle qui chasse tous les importuns vers le jeu de paume. Nul ne vient fondre jusqu'à moi. Nul ne troublera mes pensées qui, dans cette confiance même, se développe plus hardie. Je n'entends pas crier ma porte à chaque instant. Le rideau de mon cabinet ne se soulèvera point. Je pourrai poursuivre mon pas, chose essentielle, surtout à qui marche de lui-même et dans la voie qu'il s'est tracée. Est-ce donc que je ne suis pas les anciens? Si fait, mais je me permets de faire aussi quelques découvertes, de modifier, d'abandonner les leurs. Mon acquiescement n'est point un esclavage. Mais non, c'était trop dire. Je me promettais du silence, une solitude que rien n'interromprait. Et voici qu'une bruyante clameur, partie de l'amphithéâtre, vient non m'arracher à mon calme, mais me faire songer à ce débat si passionné des spectateurs. Je considère à part moi combien de gens exercent leur corps et combien peu leur esprit. Quel concours de peuple à un spectacle de mensonges et d'illusions, et quel désert autour de la science. Quels imbéciles esprits dans ces hommes dont on admire l'encolure et les muscles. Voici sur quoi j'arrête spécialement mes réflexions. Si le corps peut arriver par l'exercice à cette force passive qui endure les coups de pied et de poing de plusieurs assaillants, qui lui fait braver les plus vives ardeurs du soleil au milieu d'une poussière brûlante, dégoûtant du sang qu'il perd, et cela durant tout un jour, combien plus aisément l'âme ne pourrait-elle point s'endurcir à recevoir sans se briser les coups de la fortune, à être terrassée, foulée par elle pour se relever encore. Le corps a besoin de mille choses pour soutenir sa vigueur. L'âme croît par sa propre énergie. Elle s'alimente et s'exerce elle-même. Il faut au corps force nourriture, force boisson, force huile. En un mot, des soins continus. La vertu, tu l'obtiendras sans tant de provisions, sans dépenses. Tout ce qui peut te rendre bon est en toi. Que te faut-il pour l'être? Le vouloir. Et que peux-tu vouloir de mieux que de t'arracher à cette servitude qui se fait sentir à tout homme, et que les esclaves même du dernier rang, du sein de cette fange où ils sont nés, s'efforcent de briser par tous les moyens? Ce pécule, amassés en fraudant leur appétit, ils le donnent pour racheter leur tête. Et tu n'ambitionnerais pas de conquérir à tout prix la liberté, toi qui te crois né libre? Tu jettes les yeux sur ton or. L'or ne l'achète point. Chimère, donc, que cette liberté qui s'inscrit au registre public. Elle n'est pas plus à ceux qui la payèrent qu'à ceux qui la vendirent. C'est à toi de te la donner. Ne la demande qu'à toi. Affranchis-toi premièrement des terreurs de la mort. Avant tout autre, ce joug-là nous pèse. Ensuite, de la crainte de la pauvreté. Pour savoir combien elle est loin d'être un mal, compare la physionomie du pauvre avec celle du riche. Le pauvre rit plus souvent et de meilleur cœur. Ses soucis n'ont rien de profond. S'il lui survient quelque inquiétude, c'est un léger nuage qui passe. Mais les heureux, comme on les appelle, n'ont que des joies factices ou des tristesses poignantes et concentrées, d'autant plus poignantes qu'il ne leur est jamais permis d'être ouvertement misérables, et qu'au fort même de ces chagrins qui rongent le cœur, il faut jouer son rôle d'heureux. Cette métaphore-là, j'ai trop occasion d'en user, car rien ne caractérise mieux le drame de la vie qui assigne à chacun de nous un personnage si mal soutenu. Cet homme qui s'avance majestueusement sur la scène et qui dit, renversant sa tête, « Héritier de Pélops, je suis maître d'Argos. L'isthme que l'Hellespont vient battre de ses flots et qui commande au loin sur la mer d'Ionie, reconnaît mon empire. C'est un esclave qui reçoit par moi 5 boisseaux de froment et 5 deniers. Ce héros, superbe, impérieux, gonflé du sentiment de sa puissance, et qui dit « Arrête, Ménélas, ou tu meurs de ma main », est un gagiste à temps par jour, qui dort dans un galetas. Autant peux-tu en dire de tous ces voluptueux en litière qui planent sur les têtes et dominent la foule. Leur bonheur à tous est un masque. Arrache-le, ils feront pitié. Avant d'acheter un cheval, tu fais des bouclés sans harnais. Tu déshabilles l'esclave que tu marchandes. Il peut cacher quelques vices physiques. Et tout autre homme, tu le prises avec son enveloppe. Chez les vendeurs d'esclaves, tout ce qui pourrait choquer se déguise sous quelque artifice. Aussi, pour l'acheteur, tout ajustement est suspect. Qu'un lien quelconque à la jambe ou au bras frappe ta vue, tu fais tout découvrir, tu veux voir le corps bien à nu. Vois ce roi de Scythie ou de Samarthie, le front paré du diadème. Si tu le veux apprécier et savoir au fond tout ce qu'il est, détache son bandeau. Que de misère cachée là-dessous. Mais que parlais-je des autres, si tu veux te peser toi-même, mets à l'écart ta fortune, ta maison, ton rang, et considère l'homme intérieur. Jusque-là, tu t'estimes sur la foi d'autrui.